Bonjour mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour une deuxième émission dédiée à Léon Delagrange, le célèbre aviateur qui a donné son nom au collège de Neuville-aux-Bois. Cette semaine, ce collège célébrait les 140 ans de Léon Delagrange avec de très nombreuses manifestations dont nous allons vous rappeler les points forts.
Mai 2012, 9h30, UTC plus 2h. Cours du collège Léon Delagrange, Neuville-aux-Bois, Loiret, France.
Un jaguar est dans la cour du collège et il n'est parti qu'en fin de journée. Je peux vous assurer qu'à l'heure de la récréation, tout le monde voulait le voir et le toucher. Heureusement, l'armée de l'air était là. Normal, ce jaguar est un avion de chasse et c'est sur une remorque que son cockpit était exposé. Tout au long de la journée, le capitaine Le Prévost du CIRFA a assuré la visite guidée auprès des cinquièmes. À tour de rôle, ils ont pu prendre place et, l'espace de quelques instants, être à la place des pilotes de chasse de l'armée française. Mais écoutons le capitaine Le Prévost en pleine explication.
À la terre. Donc là, si on regarde bien tel que c'est installé, ça veut dire que l'avion, il est en plein virage à gauche. Vous voyez ? La terre, elle est à plat comme ça. Là, ce sera en plein virage à gauche. Ok ?
Ça sert à quoi les
petits boutons là? Alors ça, c'est en cas de feu moteur, c'est-à-dire si la température ici est dans le rouge, donc au-delà de 650 degrés jusqu'à au-delà, eh bien à ce moment-là, le pilote, s'il y a un feu moteur, il appuie sur le bouton et il déclenche les extincteurs.
Quand le siège là, oui. Il s'éjecte, oui. Il y a quelque chose pour protéger le pilote?
Oui, alors il a son casque, d'accord? Il a son casque, sa combinaison, il est collé au siège. Ici, bon, sur celui-là, il y avait un rideau qui se mettait devant lui, mais ça ne le protège pas beaucoup. Mais surtout, il est collé au siège. Normalement, il va passer au travers de tout ça. Il a un blouson, il vole toujours avec un blouson, même en plein été. Et la première chose qui va traverser la barrière, c'est ça. C'est le haut du siège éjectable, qui va finir de casser la barrière. Donc le pilote, il va s'éjecter de tout ça. Je ne dis pas que l'éjection est systématiquement réussie. Il y a déjà eu malheureusement des précédents où les pilotes se sont blessés ou même ont été tués. Mais la plupart du temps, ils s'éjectent et ça se passe bien.
La présence de l'armée au sein du collège répond ainsi aux missions du CIRFA, comme va nous le préciser le capitaine.
Donc, bonjour, je suis le capitaine Le Prévost, le commandant du CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées d'Orléans. Donc on est ici présent pour dans le cadre de l'anniversaire de Léon Lagrange, et donc on est venu présenter notre cabine de Jaguar avec notre camion de promotion. Donc le rôle du CIRFA qui est stationné aux deux rues Fernand Rabier, juste à côté de la cathédrale à Orléans, son rôle c'est de s'occuper du recrutement dans les armées et principalement pour mon cas de l'armée de l'air. Donc dans l'armée de l'air, les recrutements sont possibles de l'âge de 16 ans jusqu'à 30 ans, avec un niveau bac, un niveau 3e jusqu'au bac plus 5, 6, 7, autant qu'on veut.
Donc, finalement, votre venue dans un collège du département cadre tout à fait avec l'objectif que fixe l'armée par rapport à sa politique de recrutement.
Alors, l'armée de l'air, c'est 2000 recrutements par an, quand même. Donc, effectivement, notre rôle, c'est surtout d'informer les jeunes. On n'est pas du tout des sergents recruteurs qui vont les pousser à signer 5 ans au bas de la page. C'est pas du tout notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de donner envie aux jeunes. Ceux qui le souhaitent peuvent faire une carrière très intéressante chez nous, d'autant que les formations sont payées et que on a une certaine sécurité de l'emploi et avec des métiers qui sont tout de même passionnants, parce que les métiers de l'aéronautique, tout le monde ne fait pas ça tous les jours.
C'est sûr. Très bien, capitaine Le Prévost, je vous remercie et encore merci d'être venu avec cette magnifique cabine de Jaguar. Il y a eu énormément de monde aujourd'hui, souvent la queue, des fois un peu la bousculade, mais c'est votre lot quotidien, je suppose.
Oui, tout à fait. Hein. Cette cabine attire beaucoup de monde. Bon, il a fallu faire un petit peu la discipline dans certains cas, parce qu'effectivement, les enfants avaient trop envie de venir la voir. Donc, mais ça se passe dans une bonne ambiance et je pense qu'on a peut-être éclairé certains et on leur a donné envie d'en savoir plus et de se rendre compte en fait que ce qu'ils font à l'école, ça leur permettra un jour d'avoir un beau métier.
Mon capitaine, je vous remercie.
Malgré une météo désastreuse, l'enthousiasme des collégiens n'aura jamais faibli, l'armée assurant quant à elle sans relâche sa mission de communication. La semaine est également marquée par plusieurs expositions. Les avions de la Seconde Guerre mondiale au CDI, les métiers de l'aéronautique au rez-de-chaussée avec Air Emploi, mais surtout par l'exposition En vol jusqu'au 1er juin en salle polyvalente.
Cette exposition a été créée par la CCSTI, Centre Sciences qui agit pour la promotion des sciences et techniques au grand public. De nombreuses classes ont ainsi déjà découvert, au travers de simples manipulations, les lois physiques qui régissent le vol. Ainsi, on distingue deux grands types d'aéronefs, les plus légers que l'air, comme les montgolfières, les plus lourds que l'air, comme les avions.
Bien, donc ici on a une manipulation qui modélise une montgolfière. Donc on vient de voir que au niveau de l'air ambiant, quand vous aviez de l'air qui était chaud, l'air était moins dense, et donc l'air allait s'élever dans une masse d'air froid. Ici, vous avez une montgolfière avec une enveloppe qui est très légère, d'accord, qui repose sur un socle. Donc voilà. Donc c'est un sèche-cheveux, voilà, tout à fait. C'est un sèche-cheveux qui va permettre de gonfler cette montgolfière. On a la montgolfière qui est en l'air. Cette montgolfière, vous voyez qu'elle est montée assez rapidement. Là, elle est limitée au plafond. Cet effet Bernoulli, c'est lorsque vous avez une balle de polystyrène ou un autre objet, peu importe, et vous avez un courant d'air qui va se déplacer autour. À partir du moment où l'air est obligé de se déplacer autour, donc vous avez une certaine vitesse qui va se créer, et plus la vitesse est importante, et plus l'aspiration va être importante. Donc ici, vous avez cet effet Bernoulli qui est mis en évidence. Et là, vous avez toujours les mêmes éléments qui sont présents, donc un ventilateur, un système pour peigner l'air, une aile. Donc là, en jaune, qui fait face à l'entrée d'air, vous avez quoi ? Le bord d'attaque. Donc derrière, le bord de fuite. Au-dessus,
extrado, intrado.
Et on a toujours l'extrado qui est bombé par rapport à l'intrado. Donc suivant la loi de Bernoulli, normalement, je dois avoir une aspiration qui doit se produire au niveau de l'aile et au niveau de l'extrado. Et donc, vous avez l'aile qui décolle.
Dorénavant, les collégiens neuvillois maîtrisent l'effet Bernoulli qui explique la sustentation des ailes d'avions et des oiseaux. En résumé, les ailes volent car elles sont aspirées vers le haut. Pourriez-vous nous parler de vous ?
Oui, je suis né à Orléans le vendredi 13 mars 1872. Mes parents tenaient une manufacture de couverture de laine. Quand je suis arrivé à l'âge adulte, mon père voulait que je prenne la relève, mais j'étais juste intéressé par le mécanisme des machines. Mes deux passions, en fait, c'était l'art et l'aviation. Et arrivé à l'âge des grandes décisions, je me suis tourné plutôt vers l'aviation.
Quels sont vos records ?
Ah, pour mes records, j'ai décroché le 30 mai, j'en suis fier, 30 mai 1908 à Rome, le record du monde de distance et de durée, 12,7 km en 15 minutes à bord du biplan voisin. Autre record, le 22 juin 1908 à Turin, j'ai battu mon propre record, 17 km, mais cette fois-ci en 16 minutes 30 secondes. Puis je suis retourné à Issy-les-Moulineaux, où là aussi j'ai battu le record du monde de vitesse du kilomètre en 1909.
Avez-vous fait monter des personnes dans votre aéroplane ?
Oui, j'ai eu le plaisir de faire monter ma compagne Thérèse Pelletier. C'est d'ailleurs la première femme à monter dans un aéroplane.
Et quelles sont vos sensations à la veille de la démonstration de vol du 4 janvier 1910 ? Êtes-vous tendu ? N'avez-vous pas peur d'y laisser votre vie ?
Non, je ne suis pas tendu. Bon, je sais qu'à chaque fois que je vole avec mon aéroplane, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ce sont les risques du métier. Et je ne reculerai pas devant ma passion.
Le 4 janvier 1910, Léon Delagrange trouve la mort en faisant une démonstration d'aéroplane devant le public. Il avait pour intention de contourner un hangar, mais à cause du vent qui soufflait à 8 mètres à la seconde, son appareil percuta le bâtiment de plein fouet.
Quand les hommes rêvent de voler, une émission préparée et animée par les 6e 8, 6e 7 et 6e 2 du collège Léon Delagrange en classe de français.
Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. La vue m'a détournée, détachez vos ceintures, libérez vos complexes, tenez-vous par l'index, surveillez vos réflexes. En attendant l'aventure...
Vite, aide-moi, je crois que j'ai attrapé un énorme poisson.
Ouais... Oh, tu vois, l'homme, là-haut.
Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il se confectionne des ailes. Regarde, il se débat comme un poulet.
C'est ridicule. Mais attends, il décolle. Il s'élance dans le ciel.
C'est incroyable. Il vole. Mais il y en a deux maintenant. Comme il plane haut, c'est beau.
Ce n'est pas dangereux.
Il y en a un qui monte vers le soleil.
On dirait qu'il veut disparaître dans le ciel. Il crie, ses ailes brûlent.
Il tombe.
Le pauvre,
c'est terrible.
Depuis ce jour, le rivage retient le nom d'Icare.
J'étais un oiseau, de Jacques Mercier. Toutes les couleurs étaient bienvenues. Le bleu outre-mer, le gris argenté. Je m'étais lancé tout au fond des nues. J'étais un oiseau, dans le ciel ouaté.
Parfois le soleil, quelquefois la pluie. Je me balançais dans l'immensité. Au gré des courants, des vents qui s'enfuient, cela ressemblait à la liberté.
Bonjour Madame Scottman Damian. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler de l'extraordinaire tentative de votre mari John.
Oui.
Est-ce que vous êtes triste?
Non, pas du tout.
Voilà un mouchoir.
Merci.
Et pour commenter cette expérience, un spécialiste du corps humain, Monsieur Delaporte, Bastien Delaporte.
Bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Madame Scottman, Damian, racontez-nous s'il vous plaît l'étrange scène à laquelle vous avez assisté.
Mon mari était convaincu qu'il pouvait voler comme les oiseaux. Et il a sauté des remparts du château, malgré mes cris, avec des ailes.
Oui, poursuivez, s'il vous plaît.
Des ailes de poulet. Et il n'a pas volé, il a agité les bras et...
Et
il s'est écrasé sur le sol.
Heureusement, plus de peur que de mal. Il ne s'est cassé que le fémur. Monsieur Delaporte, qu'en pensez-vous?
Votre mari ne savait pas que les hommes étaient trop lourds et que leurs muscles ne sont pas assez forts pour leur permettre de voler. Le cœur des hommes ne peut pas battre assez vite pour répondre à un tel effort.
Les cerfs-volants de Bernard Lorraine. Aux brises sucrées du printemps, bergers des nuées et des vents, les enfants aux cheveux de miel mènent paître leurs cerfs-volants dans les pâturages du ciel.
Parfois, sans prévenir, c'est l'âge de cerf-volant sournois vous lâche. Ils franchissent une rivière, s'abattent dans une clairière, tant la liberté leur est chère.
Clément Adair est un constructeur d'avions un peu fou. Il veut faire voler des espèces de chauves-souris géantes équipées d'hélices qui pèsent 280 kilos. Cette chauve-souris géante s'appelle Avion 3. Pourquoi le nommer Avion ? Il l'a appelé ainsi car sa machine ressemblait à un oiseau et en latin, ça donne avis. Va-t-il arriver à faire voler Avion 3 ? Oui, il y arrivera le 9 octobre 1890 sur une cinquantaine de mètres à Crêts-Armainvilliers. Imaginez-vous cet homme sur sa chauve-souris Avion 3. Pour vous donner une petite idée de grandeur, l'hélice à elle-même faisait 2,60 mètres de haut. Il devait être tout petit face à ce colosse.
Le voleur de cerf-volant, de Marc Alain. L'air qui va et qui vient, les pieds nus dans le vent, jouant avec des riens, riant à des chimères. Grand voleur de ballons, d'oiseaux, de cerfs-volants, l'air qui crée de la vie avec de la lumière.
...1783, premier vol humain à Paris à bord d'un ballon grâce à l'invention des frères Montgolfier qui avaient envoyé dans le ciel un mouton, un coq et un canard.
Hier, j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'étais en train de jouer aux petites voitures quand j'ai vu un ballon géant. Même qu'accroché au ballon, il y avait un grand panier. Et à l'intérieur, j'ai vu un canard, un coq et un mouton. Puis il a disparu dans les nuages.
Enfin nuage de Claude Roy. Dans le ciel si bleu que ce n'est pas permis, que fait le nuage blanc qui flotte tout seul ? Le soleil joue-t-il au ballon avec une bulle d'écume ? Avec la paille des moissons, l'été souffle-t-il des bulles de savon ?
La deuxième étape importante fut le développement des planeurs. Avec l'apparition, à la fin du 19e siècle, des moteurs à explosion ont pu assister au premier vol motorisé. En 1903, les frères White réalisèrent aux États-Unis le premier vol humain motorisé à bord de leur fameux biplan. Le français Louis Blériot traversa la Manche en 1909 aux commandes de son monoplan numéro 11.
C'était mon premier voyage dans l'air, j'avais peur et je n'étais pas rassurée car les sièges n'étaient pas fixés. Alors que je montais dans l'avion et que je me faisais bousculer par des personnes que je n'avais jamais vues de ma vie, j'étais la dernière à m'asseoir. Tout le monde discutait, mais moi, j'étais toute seule. Enfin, un monsieur dénommé Frédéric me posait des questions, mais je ne pouvais pas répondre, j'avais trop peur.
On vous dit, de Jean-Luc Moreau, on vous dit qu'il faut prendre l'air. Il faut en prendre et en laisser. Prenez l'air sans en avoir l'air. Prenez l'air désintéressé, prenez l'air clément comme Adair, sans vous laisser influencer, si ce n'est par les courants d'air qui sont à prendre ou à laisser.
Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon, le 29 juin 1900. Sa vie se résume en deux passions, l'aviation et l'écriture. La première, il en fera son métier, après avoir pris des cours de pilotage lors de son service militaire. Et la deuxième le rendra célèbre avec des ouvrages comme « Vol de nuit » en 1931 et « Le fameux Petit Prince » en 1943. Malheureusement, lors d'une ultime mission durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il ne devait plus piloter, son avion disparut entre la Corse et la France. Récemment, un pêcheur aurait récupéré dans son filet une gourmette en argent qui semblerait être celle d'Antoine de Saint-Exupéry. Le mystère de sa disparition demeure toujours.
Lecture du chapitre 2 et 3 du Petit Prince de Saint-Exupéry.
J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans les déserts du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait
« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »
« Hein ?»«
Dessine-moi un mouton. »
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement.
« Mais, qu'est-ce que tu fais là ?»«
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »
Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes.
« Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?»«
Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. »
Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria
« Comment ? Tu es tombé du ciel ?»«
Oui. » »«
Ah, ça c'est drôle. »
Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta
« Alors, toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? »
J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement.
« Tu viens donc d'une autre planète ?»
Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement tout en regardant mon avion.
« C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. »
À notre époque, les avions de ligne supersonique dépassent la vitesse du son. Depuis une 20aine d'années, on ne compte plus les avions militaires capables d'une telle performance. Toutefois, seuls 2 avions de transport public supersonique ont connu la construction en série, le Tupolev 144 et le Concorde franco-britannique.
Le premier qui montera pirouette, cacahuète, le premier qui montera se cassera le bout du nez, se cassera le bout du nez.
On lui a raccommodé pirouette, cacahuète, on lui a raccommodé avec du joli fil doré, avec du joli fil doré.
Le fil doré a craqué, pirouette, cacahuète, le fil doré a craqué, le bout du nez s'est envolé, le bout du nez s'est envolé.
Un avion à réaction, pirouette, cacahuète, un avion à réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper le bout du nez.
C'était « Quand les hommes rêvent de voler », une émission réalisée par les 6e 8, 6e 7 et 6e 2. Prise de son, Monsieur Edelin.
FHP, fusée hydropneumatique, plus simplement appelée fusée 1. Durant un an, des quatrièmes du collège ont conçu, réalisé et testé avec des fortunes diverses leur FHP. Ce travail d'ingénieur technicien leur a permis de mettre la main à la pâte, selon l'expression de Georges Charpak, pour faire de la recherche et du développement scientifique. Ce jeudi 24 mai à 14h40, par une météo optimale, soleil et très peu de vent, a eu lieu le lancement d'une FHP de 1,40 m de haut. Attention, le compte à rebours est lancé.
5, 4, 3, 2, 1...
H-30 minutes, briefing prévol.
Alors, je vous rappelle vos rôles, d'accord. Donc, la base et le tube, c'est Colin et Loïc. La fusée, Melvin et Ahmed. Tuyau, poignée, compresseur, Charlie et Maximilien. Bidon, entonnoir, tabouret, Rémi et Paul. Le déclencheur, Émeric Victor. C'est déjà arrivé qu'il y ait des fuites. Et là, il est fort probable. Alors, ceux qui seront déclencheurs, il est fort probable qu'à un moment donné, vous serez à côté de moi et je vous dirai déclenche. Il faudra le faire maintenant parce qu'il commence à y avoir des fuites, parce que ça ne tient pas la pression. Il ne sera peut-être même pas à 5 bars. D'accord ?
Ok, c'est bon.
Eh ben, action.
Ouais, conditions optimales.
H-20 minutes, installation de la rampe de lancement et mise en place de la FHP sur le stade.
Mais tu vois, on peut commencer à le dérouler ou pas? Ah, j'arrive pas à le mettre.
Là-bas. Oui, j'y aille. Oui, je me sens pas à l'aise. Là.
Non, j'y arrive pas.
Rémi, tu...
On va mettre l'eau. C'est un tiers d'eau et deux tiers d'air, le mieux.
Au début, la propulsion, c'est à l'eau.
Très important, ça. Alors, normalement, on va faire un beau vol balistique parce que là, en plus, elle est déjà orientée comme ça, plus le vent qui va la pousser.
H-10 minutes, arrivée du public. H-5 secondes. Rupture de la partie supérieure de la FHP, modification et réparation immédiate pour une remise sous pression. La fusée réduite d'un tiers aura atteint la hauteur de 60 mètres avec 3 litres d'eau et 5 barres de pression. Le tir est un succès. Allez, c'est parti.
Barre. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Mai 2012, 9h33, enceinte du collège Léon Delagrange, Neuville-aux-Bois, Loiret, France. Une chose étrange a atterri ce matin dans l'enceinte du collège Léon Delagrange. Personne ne sait réellement ce que c'est. Certains pensent que c'est un panier géant, d'autres pensent à une nacelle de montgolfière, et d'autres encore veulent s'y cacher, croyant que c'est une cabane.
Nous allons demander à Monsieur Zagosda, professeur de technologie au collège, de nous aider à élucider ce mystère.
Monsieur Zagosda, pouvez-vous répondre à quelques questions ?
Beaucoup de gens se posent la question. Quel est cet objet qui se trouve dans la cour du collège ?
Une nacelle de montgolfière.
D'accord. Et savez-vous d'où elle vient ?
C'est la mienne. Je l'ai amenée ce matin.
Ah, d'accord. Et pouvez-vous l'utiliser tout le temps ?
Non, parce qu'il faut une condition de météo assez bonne, assez clémente, donc ce qui veut dire c'est le matin ou le soir.
Et pourquoi ne pouvez-vous pas l'utiliser pendant la journée ?
Dû à la condition météo, en fait, en pleine journée, il y a souvent du vent, il y a aussi des turbulences. Le souci du ballon, en fait, le ballon est dans l'air. Donc dès que c'est instable, on ne peut plus du tout le piloter, en tout cas très difficilement.
Combien de personnes peuvent y monter ?
Pour celle-ci, c'est entre 3 et 4 passagers.
Est-ce facile à manier ?
Un peu difficile. En fait, la difficulté, quand on est en l'air, en fait, ça vole tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est surtout en fait, gérer la descente et la montée qui est un peu plus difficile puisque le ballon a une certaine inertie. comme celui-là il fait 3000 m3, bah, c'est équivalent en gros de 3 tonnes à déplacer.
Eh bien, merci Monsieur Zagosda d'avoir accepté notre interview. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions pour l'écoute que vous nous avez accordée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours.
Cette émission a été réalisée par les élèves et les professeurs du Collège Léon Delagrange de Neuville-aux-Bois. Nous tenons à remercier tout particulièrement la mission TIS de l'Académie pour son soutien technique et le CLEMI pour son expertise dans la création radiophonique. Bonne journée !